Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité départementale produit par vos radios associatives. Au sommaire de cette émission, nous irons à la rencontre du tourisme pédagogique avec l'écomusée du Memorionnais dans le cadre de sa prochaine exposition « Souvenirs d'enfance » du 7 février au 9 mars. Plus de détails dans notre interview. Fake Hair Don't Care, ou en français Faux Cheveux Je M'en Fiche, est une association qui propose des perruques naturelles pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux à cause d'une maladie, cancer, pelade ou encore alopécie. Ces perruques sont faites avec des cheveux naturels qui proviennent de dons de toute la France, voire plus. La suite dans notre reportage. Nous finirons comme à l'habitude par l'agenda culturel. Vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne, merci d'être avec nous. Monique Roulecker, responsable du service tourisme et pédagogie de l'écomusée du Memorionnais pour l'exposition Souvenirs d'enfance, était au micro de Vincent Ribaud pour notre interview.
Bonjour à toutes et à tous. L'écomusée du Montmorillonnais présente une exposition intitulée « Souvenirs d'enfance » du 7 février au 9 mars à Montmorillon. Cette exposition évoque la place de l'enfant dans la société entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Au téléphone d'Agora, nous accueillons Monique Roulecker, responsable du service tourisme et pédagogie de l'écomusée du Montmorillonnais. Bonjour.
Bonjour.
Alors en préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler la vocation de l'écomusée du Montmorillonnais ?
Oui, bien sûr. L'écomusée, c'est une association culturelle, loi 1901, qui étudie l'homme, avec un grand H, sur son territoire. Et donc, le territoire de l'écomusée, c'est les 55 communes du sud-est de la Vienne. C'est le même territoire que l'intercommunalité. Et l'objectif, c'est de savoir d'où on vient, hein, puisque bon voilà, en étudiant le territoire, en enquêtant, en recueillant des témoignages sur différents sujets en fonction des thèmes étudiés, ça permet de mieux comprendre comment on vivait sur ce territoire. Et l'idée d'un écomusée, c'est pas seulement d'être sur le regard dans le rétro, c'est au contraire de se servir de cette histoire pour après mieux se projeter et aider aussi des projets tout à fait actuels. Parce que quand on sait d'où on vient, on va plus facilement vers l'avenir.
Comment est née l'idée d'une exposition sur ce thème de l'enfance autrefois ?
Cette exposition, elle est née en 2014. On était au moment de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'était voilà le contexte un peu général. Et on avait beaucoup d'actions, nous, qui se situaient autour de l'enfance. Et donc, en croisant un peu ces deux éléments-là, on s'est dit que ce serait intéressant d'étudier sur la période 1870, début 20e, 1920, pour les bornes de cette exposition. Parce que c'est le moment aussi où il y a pas mal de choses qui vont changer, et notamment pour l'enfant, c'est plus seulement l'enfant qui aide, mais c'est aussi les lois sociales au début du XXe siècle qui vont intervenir, qui vont être votées, et qui vont permettre de limiter par exemple les journées des enfants qui travaillaient déjà très tôt. Et puis, c'est bien sûr les lois sur l'éducation. Et donc, on avait déjà travaillé beaucoup sur l'histoire des écoles. On avait fait une exposition qui s'appelait « 100 ans d'école », par exemple. Donc, ça croisait différentes choses qu'on n'avait pas forcément vraiment traitées dans une exposition, et ça permettait d'y remédier.
Dans le détail, comment se présente cette exposition ?
Alors, l'exposition comprend 7 panneaux, pardon, 7 panneaux qui permettent de voir justement toute cette évolution. Souvenirs d'enfance, pourquoi ? Parce que c'est alors à la fois une période proche et une période lointaine, hein, entre la fin du 19e et aujourd'hui. Et c'est ce moment un peu charnière, comme je vous le disais, où l'enfant était considéré, notamment au 19e, enfin jusqu'au 19e plutôt, comme étant une force de travail supplémentaire. On est dans un secteur rural, et donc évidemment, dans cette histoire, eh bien, les jeunes enfants étaient aussi une force de travail qui renforçait la famille. Il faut aussi se resituer dans le contexte. Hein. On était dans les fermes autrefois ou chez les artisans. On n'avait pas toute la motorisation, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'était la force humaine qui compensait ce manque. Et le fait d'avoir des enfants, des familles nombreuses, ça permettait aussi d'avoir une force de travail supplémentaire. Et donc, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, on va avoir une évolution de la société sur la perception de cet enfant. Un enfant qu'on va donc éduquer, qui va devenir un futur citoyen, comme on le conçoit un peu aujourd'hui. C'est les prémices de notre regard d'aujourd'hui. Et donc, on a repris un peu ce cheminement. Donc, on a un panneau qui s'appelle « Entrée dans la vie », comment l'enfant rentre dans cette vie, comment il va être protégé. On a tout un travail qui avait été fait sur les voyages, hein, vous savez, c'est une façon de faire en fait des familles parce que la mortalité enfantine était encore importante. On cherchait à protéger l'enfant, alors via la religion, par le baptême par exemple, mais aussi par des voyages plus traditionnels où on emmenait l'enfant à Saint-Sylvain ou par exemple à Les Jourdains ou à Saint-Raux à la Latue, enfin voilà, pour éviter les certaines maladies. Donc voilà, on avait tout ce côté un peu protection qui était encore très fort. Et puis après, on a un deuxième panneau qui s'appelle En famille. Et donc là, ça s'appuie sur des témoignages, puisque un écomusée n'existe aussi que parce qu'il travaille avec les habitants qui lui donnent des informations, qui lui permettent de pouvoir confiner cette mémoire dont on parlait en préambule. Et donc, ça a permis de voir aussi comment les enfants, au sein des familles, alors si on était dans une famille riche, si on était dans une famille d'éleveurs, d'agriculteurs, si on était dans une famille d'artisans, donc là, on a différents témoignages qui permettent de voir comment l'enfant était élevé, éduqué, les jouets, garçon ou fille, hein, avec quoi il jouait. Là aussi, la classe sociale était importante. Et on voit que c'était encore une éducation très genrée, hein, avec des jouets buissonniers pour les petits bergers qui allaient garder les troupeaux. Et évidemment, on n'avait pas dans les familles les moyens d'offrir des jouets tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Et donc, c'était avec les ressources de la nature, quelques brindilles, un gland, une fleur, un petit morceau de bois, que les enfants, en gardant les troupeaux, faisaient aussi des jeux, parce que, comme tout enfant, ils avaient besoin de s'amuser. Et puis, pour les filles, on avait déjà quand même des éducations qui étaient très très sexuées, où la fille apprenait à s'occuper d'un futur bébé, à faire la cuisine. Pour les familles aussi, il y avait encore cette période où on amenait son trousseau dans la dot de mariage, et donc il fallait broder, etc. Donc, différents éléments comme ça qui sont évoqués. Et puis donc après, bien sûr, surtout l'école, puisque c'est à ce moment-là que les lois sur l'école vont être entrées en vigueur et permettre l'éducation des garçons et des filles. Et puis bien sûr, c'est une société à cette époque-là qui va être marquée par la Première Guerre mondiale.
Et je précise que cette exposition Souvenirs d'enfance est à découvrir du mardi 7 février au jeudi 9 mars, du lundi au jeudi de 9h à midi et de 14h à 17h30 dans les locaux de l'écomusée du Mont-Morillonnais, 2 places du Vieux Marché à Montmorillon. L'entrée est gratuite. Renseignements au 05 49 91 02 32. Merci à vous, Monique Roulecker. Je rappelle que vous êtes responsable du service tourisme et pédagogie à l'écomusée du Mont-Morillonnais.
Merci beaucoup et bonne journée.
Plus d'informations sur www.écomusée86.fr. Lundi 30 décembre, l'association Fake Air Don't Care tenait une réunion de présentation à la clinique du fief de Grimoire à Poitiers et notre confrère Ludmila Guignard était sur place.
Une vingtaine de femmes sont présentes dans la salle, malades ou coiffeuses, autant intéressées par les perruques que par les dons. Sylvie Goubin est coiffeuse à Buxerolles, elle propose à ses clientes de donner leurs cheveux.
J'en ai 4-5 mètres de mèche de cheveux à peu près, enfin de longueur, quoi. Donc ça me touche énormément. Parce que j'ai eu dans ma famille des gens qui ont eu le cancer, donc, et puis même moi en tant que coiffeuse, quoi. Faire plaisir aux gens, pour les aider, pour qu'ils soient mieux, quoi.
Pour les dons, tous les types de cheveux sont acceptés, fins, crépus, colorés ou encore naturels. L'essentiel est qu'ils soient en bonne santé et d'une longueur d'au moins 10 cm. Il est possible de les couper soi-même ou chez un coiffeur. L'association propose sur son site des techniques de coupe et ces dons sont essentiels pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux à cause de la maladie. Delphine Perroche, animatrice santé publique dans les cliniques Elsan de Poitiers.
Je pense que y a une majorité de personnes en traitement, donc soit demandent une perruque ou alors des dispositifs de franges aussi, uniquement franges et foulards suite à la perte de cheveux. Donc c'est assez demandé parce que l'image reflétée de la personne quand on a perdu ses cheveux choque encore beaucoup à l'heure actuelle. Et c'est vraiment pour l'image de soi et le regard des autres qui parfois dérange.
Les perruques de Fake Hair Don't Care sont vendues 1 000 euros en moyenne contre 3 à 4 000 euros dans le commerce. L'assurance maladie prend en charge la totalité de la somme dans une limite de 350 euros pour une perruque synthétique et 250 euros pour une perruque en cheveux naturels si elle coûte moins de 700 euros. La première étape pour en bénéficier est donc de contacter l'association Inès Malawi, cofondatrice.
Pourra justement parler de ce projet perruque, c'est-à-dire de voir si peut-être vous posez les bonnes questions. Est-ce que vous avez besoin d'une perruque? À quelle fréquence vous allez la mettre? Quel type de perruque que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez absolument des cheveux naturels? Quand vraiment la perruque est lancée, la fabrication est lancée et qu'il va falloir en fait prendre les mesures, on se déplace avec le perruquier et on va chez la personne.
Et quelle est la réaction des bénéficiaires quand ils reçoivent leur perruque?
Je dirais que la première réaction déjà c'est de pas du tout s'attendre à ça parce que on a pu leur parler de la perruque et surtout on leur a dit souvent les mauvaises choses, mais en même temps ça existe, hein, les perruques qui grattent, les perruques qui en serrent la tête, les perruques qui chauffent. Il faut savoir que nous, la perruque, comme elle est faite avec, déjà elle est faite sur mesure, en fait la première sensation qu'ils ont, c'est de ne rien avoir sur la tête. Après, c'est vrai qu'on se pose toujours avec eux, c'est pas un rendez-vous expéditif, hein. Généralement on reste 1 heure, 2 heures, on boit un café. Nous, on estime qu'on a tout gagné quand la personne s'approprie la perruque, donc en fait elle recommence à faire des petits gestes, elle se met les cheveux derrière les oreilles, elle se recoiffe, elle se gratte la tête. En fait, là on se dit ok, donc là à ce moment-là, on a compris. Et elle-même, elle s'en rend compte après qu'en fait, elle a oublié la perruque. C'est généralement ça. Après, il peut y avoir des pleurs. Il peut y avoir beaucoup de personnes, justement, qui sont très émues parce que c'est aussi une façon de se réapproprier son image et donc d'avoir la sensation de gagner une étape, en fait, dans le cancer, dans cette bataille, en fait, de se dire, à ce moment-là, j'ai gagné une bataille. Et après, le reste, j'ai mon armure, en fait, et je vais pouvoir me battre de la meilleure des façons.
Fake Hair Don't Care à retrouver donc sur Instagram, Facebook ou encore LinkedIn.
L'agenda de cette semaine vous est présenté par Radio Écho des Choucas.
Bonjour à toutes et à tous. Avec l'arrivée des vacances scolaires, comment occuper vos enfants et ados? Réponse dans cet agenda et pourquoi ne pas commencer par faire un tour au salon Pictasia de Poitiers. Organisée par l'association PictaGeek, la deuxième édition de ce salon mettra à l'honneur la culture asiatique sous toutes ses formes, avec la présence de nombreux artistes, auteurs et doubleurs de voix évoluant dans l'univers du manga et de l'animation. Également à retrouver des associations et passionnés locaux de culture asiatique, sans oublier le traditionnel concours de cosplay, ces déguisements reproduisant les personnages de vos œuvres favorites. Rendez-vous au Parc des Expositions de Poitiers, c'est samedi 4 et dimanche 5 février. Toutes les informations sont à retrouver sur pictageek.fr. La caravane des sports, organisée par le département de la Vienne, poursuit sa route cette année encore. L'occasion pour les jeunes de 8 à 16 ans de s'initier à la pratique du sport en participant à des ateliers encadrés par des professionnels. Les ateliers sportifs se déroulent de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. L'inscription pour la matinée ou pour la journée est gratuite et se fait sur place le jour même. 5 jours, 5 étapes, d'Angers-Saint-Romain le lundi 6, Valdivienne le mardi 7, Latillé mercredi 8, Lusignan jeudi 9 et Mont-sur-Gaine vendredi 6. Toutes les infos sur le site du département, lavienne86.fr. Et pour finir ce tour d'activité, intéressons-nous aux plus petits qui pourront par exemple s'émerveiller devant le spectacle de la compagnie Idéosphère au théâtre La Grange au Loup de Chauvigny. Il était une voix, l'histoire d'une petite fille qui, enfermée dans sa chambre, s'évade en rêverie et part à la découverte de son monde intérieur. Un spectacle de danse et récit à partir de 3 ans, à retrouver samedi 4 et dimanche 5 à 16h, lundi 6 et mardi 7 à 11h et à 16h, on le rappelle, au théâtre La Grange au Loup de Chauvigny. Toutes les infos et le programme complet du théâtre sont à retrouver sur lelookisazote.org.
Vivre en Vienne, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles informations locales. En attendant, prenez soin de vous.
C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.